Isolement et résistance.
Rawama,
Margot,
Palermo,
Lisbonne,
Atchassoydiri,
Correia,
Paula,
Hydre-Europe,
Océanique,
Resistencia,
Solène,
Justine,
Zoé,
Droit du peuple
palestinien,
le droit à la vie,
d'Alliance
Migration,
Marche des
Solidarités,
Coupable,
Autorité
des Projets,
Alliance Migration,
Barcelona,
Solidarité,
Régularisation Inconditionnelle.
Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours à Bruxelles et je sors d'une réunion avec une diplomate luxembourgeoise, là, avec d'autres membres de la coordination européenne pour la Palestine. Et je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression qu'on a mal préparé le rendez-vous, qu'il n'y avait pas tellement de stratégie, qu'on a un peu lu les rapports qu'on voulait présenter comme ça, mais sans tellement de vie. Et je me rends compte qu'on a extrêmement peu de pouvoir en fait en tant qu'association, même si c'est la plus grosse association européenne. Extrêmement peu de pouvoir face à tous les lobbies israéliens. Ils sont 400, 500 à travailler pour Israël à Bruxelles. Et ça me donne assez envie de passer un peu les concours de la diplomatie ou alors d'essayer de trouver un poste plus dans les institutions pour essayer d'avoir un plus grand impact. Et ça me fait penser aussi à une interview que j'ai écoutée il y a quelques jours. Je vous envoie le lien. C'est un prof de philo qui parle un peu de l'infiltration politique et du fait que les élèves de gauche ont tendance à rester hors des institutions et à se construire contre elles, alors qu'ils pourraient avoir plus d'impact en jouant le jeu du pouvoir et en rentrant dans ces institutions. Je vous envoie le lien. Bisous.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Geoffroy de Laganerie, contre le vieux militantisme efficace, appelons-le comme ça, vous prônez, l'infiltration, une arme, dites-vous, extrêmement puissante. Vous appelez à conquérir les appareils de pouvoir, à entrer dans les grandes institutions, Conseil constitutionnel, École nationale de la magistrature, ENA. C'est quoi, prendre le pouvoir de l'intérieur pour le subvertir? C'est ça, ce que vous appelez infiltration?
En tout cas, ce que j'appelle l'infiltration, c'est essayer de réfléchir dans la gauche sur notre tendance à quitter les institutions lorsque nous sommes en désaccord avec elles et à paradoxalement définir l'action radicale comme le fait de se priver des lieux de l'action radicale. Or, moi, je pense que quand nous vivons dans un monde où il y a des systèmes de pouvoir, il faut produire des transformations systémiques et l'un des lieux de possibilité de produire des transformations systémiques, ce sont les institutions, ce sont le droit, c'est les juges, c'est la magistrature, ce sont les grandes institutions internationales et que de ce point de vue-là, il est sans doute beaucoup plus intéressant d'essayer de faire un maniement subversif des institutions. Moi, je ne crois pas que les institutions ont des natures ou des essences. Ce sont des conquêtes historiques et des manières dont les dominants ou les dominés vont s'en servir pour produire un certain nombre de buts. La police, l'école peut fonctionner de manière très démocratique ou au contraire de manière très injuste et c'est les gens à l'intérieur qui le transforment. Et donc à gauche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus intéressant plutôt que s'exclure systématiquement des institutions et les laisser aux conservateurs et après se plaindre qu'elles fonctionnent de manière conservatrice, d'y rentrer, d'y acquérir des positions de pouvoir et les faire fonctionner dans le but que nous voulons.
Avec Margot, Renette, Julie et moi, Mélusine, on a souvent des discussions pour partager nos ressentis, nos actions sur le terrain ou à distance dans le cadre d'échanges et partenariats. Et voici l'une d'entre elles.
Salut
Julie. Coucou. Je branche Julie, j'arrive.
Yes, cool.
C'est bon. Salut Julie, ça va? Tu nous entends bien? La connexion est bonne?
Ouais, c'est parfait. Désolée Renette, pour hier, j'ai pas répondu à ton message. Je voulais te dire que t'es pas la seule à ressentir un peu de frustration. Moi aussi, j'ai un peu de mal à croire en nos activités dans le cadre de la mission. Enfin, moi, de mon côté, je participe à des activités de plaidoyer par le biais de réseaux, d'organisations européennes qui bossent sur la défense des droits des migrants. Et je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour se mobiliser, pour coordonner les actions. Et puis, j'ai un peu de mal à visualiser l'impact de tout ça. On publie des déclarations hyper générales qui réaffirment les droits humains des personnes migrantes. Il n'y a pas vraiment d'effet concret et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait un réel, une vraie réception de ces travaux par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, il y a très peu de migrantes et migrants parmi les gens qui participent à ces groupes de travail et ça me pose vraiment question sur le plan de la légitimité. Enfin bref, pour revenir sur l'extrait que tu nous as envoyé, c'est super intéressant. J'avais jamais entendu cet intervenant. Personnellement, je pense que j'aurais quand même du mal à m'engager du côté institutionnel pour avoir discuté avec des potes qui travaillent dans les institutions, j'ai vraiment l'impression que la marge de manœuvre, elle est très réduite. Ils ont très peu de marge de manœuvre et sans s'en rendre compte, ils adoptent très vite les codes de leur milieu. J'ai l'impression que c'est un peu une machine à broyer, le milieu institutionnel. Ça se ressent même dans le vocabulaire assez déshumanisant qu'ils utilisent, par exemple, concernant les migrantes et les migrants. À mon avis, il faudrait vraiment atteindre des statuts très élevés dans le milieu institutionnel pour espérer pouvoir faire quelque chose et surtout mettre une énergie folle à rester perméable, ouvert et informé aux critiques militantes de toutes les actions que tu mènes.
Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on se fait forcément influencer un peu dans le vocabulaire qu'on utilise, etc., dans la structure dans laquelle on évolue, mais en même temps, pour moi, le plus important, c'est l'impact que je vais avoir, et du coup, le calcul va plutôt être en fonction de l'impact que de mon accord politiquement avec la structure dans laquelle j'évolue. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Mélusine ?
J'en pense que y a un risque de se détacher de la réalité si on intègre seulement les institutions. Et à mon avis, il faut réussir à garder un pied dedans et un pied en dehors pour pouvoir prendre de la recul et de la distance pour pas tomber simplement dans une politique de séduction où on veut rester au pouvoir, mais plus dans une politique pour réussir à mettre en place une société où tout le monde a sa place. Mais c'est intéressant ce côté-là d'infiltration, même si c'est lent, à mon avis, c'est nécessaire. Et les manifestations, par exemple, ça peut être aussi un contre-pied pour une action directe, en fait, pour si on proteste et qu'on propose en même temps. Et ça me fait penser un peu au Cantiere, le centre social à Milan, où j'ai passé quelques mois. Et en fait, c'est un laboratoire toujours en mouvement qui propose plein d'idées et qui arrive aussi à les mettre en pratique sur le terrain. Et ils ont des alternatives, enfin, ils arrivent à mettre en place des alternatives au système actuel, et où il y a l'entraide, en fait, elle prime sur... Elle est toujours au cœur des relations sociales. Et parce qu'un peu, le pouvoir, en gros, c'est d'être ensemble. Il n'y a personne qui est invulnérable et indispensable, quoi. Mais toi, t'as un avis là-dessus T'en penses quoi, Margot?
Ouais, sur mon terrain de mission, c'est vrai que les mobilisations... des habitants sur les projets urbains, ils sont hyper engagés depuis 3-4 ans, ils s'informent, ils se renseignent sur les projets, ils acquièrent même le même vocabulaire que les institutions pour pouvoir dialoguer et pouvoir faire valoir leur voix. Parfois, ils sont même force de proposition, enfin de revendication et de projets alternatifs. Et c'est en fait, c'est pas pour autant qu'ils sont plus écoutés, ils sont souvent perçus comme des opposants politiques. Et donc c'est compliqué cette balance entre les institutionnels et les mobilisations. Mais l'enjeu, c'est de montrer que voilà, les mobilisations, elles ont une voix, que c'est pas ce qui est proposé par les institutions, c'est pas la seule possibilité, qu'il y en a plein d'autres, et donc un débat peut s'instaurer. Le but, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est juste qu'il y ait des discussions, des dialogues entre ces deux parties un peu en question, quoi.
Moi, je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez eu toutes les deux plutôt des vécus dans des associations qui luttent sur le terrain. Et avec Julie, on a plutôt eu des vécus dans des associations de plaidoyer, dans des grosses structures. Et du coup, je pense que mon argument va beaucoup plus vers ces grosses associations anciennes, etc., qui ont du mal à se remettre en question dans leur mode d'action, qui font un peu les choses par habitude, sans jamais vraiment réfléchir à l'impact, même si elles le font, mais peut-être pas de manière prioritaire. Elles vont d'abord reproduire les modes d'action qu'elle a toujours eus. Et c'était plutôt ça qui m'a un peu, pas dégoûtée, mais qui m'a un peu déçue de ces grosses organisations.
Peut-être pour revenir sur le côté renouvellement du mode d'action, tu vois, Appui, c'est une très jeune asso qui date de 2012, et c'est pas pour autant qu'ils se reposent pas, qu'ils repensent pas leur mode d'action. Et par exemple, là, ma mission, ça portait sur une échelle beaucoup plus importante de projets urbains, etc. Alors que, normalement, ils répondent vraiment à l'appel de mobilisation sur un quartier. Et donc, quand on a lancé la recherche et tout ça, au bout d'un moment, bah, on s'est mis en rapport avec les mobilisations. Et elles ne comprenaient pas du tout notre démarche parce que ça leur paraissait lointain et un peu descendant, venu d'une association sans ancrage réel dans un quartier et tout ça. Et donc, il y a eu beaucoup d'acculturation, beaucoup d'explications et tout ça pour comprendre notre démarche. Et en fait, la solution à ça, c'était de créer un atelier, de créer un événement pour que tout le monde puisse se rencontrer, que tout le monde puisse dialoguer ensemble, qui est le même niveau d'égalité entre une asso et des mobilisations habitantes. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que, ouais, il faut toujours repenser un peu... se repositionner même dans un mode d'action qu'on a décidé en amont, en fait, dans la réalité, il faut toujours se remettre en question et voilà.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du repositionnement. Après, pour modérer un peu ma négativité sur nos actions militantes, j'en ai parlé un peu avec certains collègues et m'expliquaient que le travail en réseau, il est quand même intéressant, que déjà de base, dans notre thématique à nous, les personnes migrantes qui luttent sur le terrain, elles n'ont pas forcément le temps de participer aux activités de réseau comme ceux qui... Enfin, vu que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et que l'organisation de ce type de gros groupes de travail en réseau, ça permet malgré tout de créer des espaces de lutte de lutte commune européenne et internationale. Et l'objectif, c'est peut-être justement que chacune des organisations qui participent à ces réseaux, elle fasse son travail de mise en lien avec les organisations de terrain, et puis qu'au fur et à mesure, le réseau qui est déjà constitué soit prêt à accueillir les militantes et militants de terrain, les migrantes et les migrants et leurs actions concrètes.
C'est vrai que c'est ultra important de développer un réseau solidaire sur le territoire, enfin sur les terrains d'action. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressentais, ça avait l'air super important pour le camp de Thierry, là où j'étais. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Renette, sur le renouvellement des structures, déjà au camp de Thierry, leur principe c'est de mettre en chantier leurs idées, c'est le nom en fait qu'ils ont donné à leur organisation, au centre social. Et d'un autre côté, en fait, les jeunes, ils sont au cœur de la structure. Et donc, le renouvellement se fait assez naturellement parce qu'il reste un an ou deux ans maximum. Donc, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rentre, elle remet un peu en question la manière d'agir, le fonctionnement de la structure. Et même, en fait, le lieu, il a été ouvert par des jeunes aussi pour avoir un espace de sociabilité, d'organisation et de confrontation. Donc, c'est un peu ça qui est maintenu depuis maintenant 20 ans.
Ouais, du coup, c'est intéressant parce que les modes d'action sont toujours re-questionnés un peu dès que de nouveaux arrivants arrivent. J'ai l'impression que ça va être moins le cas dans une grosse organisation de plaidoyer où, du coup, les salariés vont rester 15-20 ans et où les idées vont pas forcément se renouveler.
Après, d'un autre côté, là-bas, il y a un noyau dur d'anciens étudiants. Mais au final, ils assurent la formation politique des nouveaux arrivants pour un peu former un bagage qu'ils pourront réutiliser plus tard dans leur vie future et se forger des opinions. Du coup, c'est possible aussi d'avoir les deux.
Bon, et Julie, ça se passe comment les émeutes anti-Covid à Amsterdam?
Alors, vous avez du temps ?